Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver ce soir, comme tous les vendredis jusqu'au 7 juillet sur RTL. Comment ça va, Sidonie ?
Très bien, Thomas. Soyez les bienvenus, les curieux. Au programme, on va rencontrer un aventurier des temps modernes. Il a décidé de se lancer dans le télétravail. Pas de chez lui, non, ce serait trop facile. Du désert. Mais quelle idée ! Comment se déroule une journée de boulot à 40 degrés ? Comment survivre dans ce milieu sans machine à café ? Toutes les réponses vers 20h40 dans la curiosité.
Et puis, un loup dans la gorge, ou l'histoire d'un ténor, pas Lucio Dalla, un ténor qui avait perdu sa voix, qui a failli devenir clochard et qui s'est sauvé en retrouvant ses rêves d'enfant dans une réserve amérindienne au Canada. Une histoire de dingue, vous verrez, mais surtout une belle histoire.
Et tout de suite sur RTL, on se pose des questions sur les Mormons.
RTL.
L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours existe pour bénir tous les enfants de Dieu. Elle a été organisée pour réaliser le plan divin du bonheur pour toute l'humanité, pour permettre aux familles d'avoir une vie meilleure ici-bas et pour les préparer à la joie éternelle dans la vie à venir.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h,
l'Église a actuellement plus de 15 millions de membres dans plus de 160 pays.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est donc l'ouverture d'un temple mormon le 7 avril dernier dans les Yvelines qui a titillé notre curiosité. On s'est demandé comment vivaient ces familles en 2017. Est-ce qu'ils sont nombreux, les mormons, en France ? Font-ils partie d'une secte ou d'une église ? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité, sociologue, spécialiste des mormons. Bonsoir, Christelle Vanel.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue dans la curiosité. Ce temple mormon, là, vous l'avez visité, il ressemble à quoi ? Une église protestante ou c'est très différent ?
Écoutez, je l'ai visité. C'est, il faut le dire, un bâtiment impressionnant. J'ai été agréablement surpris.
C'est moderne, c'est ancien,
C'est relativement moderne. Mmh. C'est une architecture qui se fond bien dans le paysage, qui s'intègre bien au paysage, donc rien de kitsch, rien de trop américain, on va dire. C'est beau autant à l'extérieur, c'est-à-dire il y a des parcs, des fleurs, des fontaines d'eau, que à l'intérieur. C'est-à-dire que l'art français a été respecté, notamment dans les vitraux qui sont inspirés de Monet. Après, ce n'est pas du tout un temple protestant, ce n'est pas du tout une église catholique, puisque ce qui s'y fait est vraiment très différent. C'est-à-dire que les rites religieux qui s'y font sont extrêmement différents.
Mais est-ce qu'il y a un hôtel, des bancs, pour qu'on puisse imaginer à quoi ça ressemble ? Ou ça ressemble à une grande salle de réunion ?
Si vous voulez visiter le temple mormon, c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque à partir du 20 avril, je crois, le temple va être consacré. Donc son accès, ça sera interdit aux non-mormons et puis aussi aux mormons qui sont peu pratiquants. Sinon, oui, il y a des bancs, il y a une salle d'hôte, mais seulement pour les mormons pratiquants. Mais l'extérieur et les jardins seront toujours, il sera toujours possible de les visiter pour les non-mormons.
Alors, Christelle Vanel, c'est le deuxième temple mormon qui ouvre en France. Est-ce qu'on sait combien de personnes pratiquent ce culte en France ?
Alors, on sait qu'en France, selon les statistiques données par l'institution, il y a 38 000 mormons, à peu près, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres nouvelles religions d'origine américaine. Je pense notamment aux témoins de Jéhovah ou aux adventistes. Il y a 38 000 mormons, selon l'institution. Après, savoir combien sont pratiquants, ça, c'est assez difficile. Il y a à peu près un tiers de pratiquants chez les mormons.
Il y avait Mitt Romney, je crois, à l'inauguration de ce temple mormon. Donc ancien candidat républicain à la présidentielle contre Barack Obama il y a 5 ans, un peu moins. Qu'est-ce qu'il représente pour les mormons ? J'imagine qu'il est mormon lui-même s'il était là.
Alors Mitt Romney est mormon et Mitt Romney c'est un peu une tête d'affiche pour les mormons. C'est-à-dire que c'est de la bonne publicité. Alors bonne publicité, je pense qu'il faut aussi mesurer les choses parce que je pense que Barack Obama aurait été encore une plus belle tête d'affiche, mais il n'est pas mormon. Donc Mitt Romney, en plus, c'est le candidat perdant. Malgré tout, il est mormon. Et pour les mormons, pour l'église mormone, c'est la preuve qu'aujourd'hui, on peut être mormon et parfaitement intégré à la vie contemporaine, à la vie moderne.
Oui, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet ce matin, je connaissais absolument rien aux mormons et j'avais un certain nombre d'idées d'une église assez rétrograde. Par exemple, la polygamie, par exemple, beaucoup d'interdits, par exemple, la place des femmes très, très peu considérée. Est-ce que c'est encore vrai tout ça aujourd'hui ? On fera un peu le détail après, mais est-ce que d'une manière générale, c'est encore vrai ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une église conservatrice, très conservatrice sur certains points. Pour ce qui concerne la polygamie n'est plus pratiquée chez les Mormons depuis 1890.
Ah oui, donc c'est une vieille idée reçue.
Alors, il y a toujours des schismatiques, il y a toujours des fondamentalistes qui la pratiquent, mais il y a une haine mutuelle entre Mormons et fondamentalistes. Mmh. Il y a un rejet complet d'une part et de l'autre. Et concernant les autres interdits, c'est vrai, c'est une religion conservatrice. Je pense aux interdits sexuels. Mmh. Donc, interdiction de tout rapport sexuel en dehors du mariage. Mariage qui ne peut être que strictement monogame et hétérosexuel, et puis aussi des interdits d'ordre alimentaire, c'est-à-dire interdiction du tabac, du café, du thé et du vin.
Ah, vous nous raconterez pourquoi tout à l'heure, et aussi par qui et comment l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été créée. On va d'abord voir comment vivent les Mormons au XXIe siècle. Où sont-ils les plus nombreux dans le monde?
Alors, il y a près de 16 millions de Mormons dans le monde, et la majorité vit en dehors des États-Unis. Même s'il y a quand même énormément de Mormons aux États-Unis encore aujourd'hui.
Et c'est quoi, 6 millions?
Oui, 6 millions à peu près aux États-Unis. Donc c'est quand même beaucoup, mais ça fait quand même plus de la moitié qui vit en dehors des États-Unis. Et ça, l'institution religieuse, l'Église mormone, aime bien le rappeler régulièrement. Il y a pas mal de Mormons en Amérique du Sud. Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas en tête. Pas mal de Mormons aussi, de plus en plus en Afrique. Pas mal à Tahiti, en Polynésie française, là où était construit le premier temple français dans les années 1980. Mais c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, il y eut un temps au début du mormonisme où les missions mormones marchaient beaucoup. Aujourd'hui, il y a vraiment un déclin et il y a même des paroisses mormones qui ferment.
Donc cette église mormone, comme vous la nommez, on considère, j'imagine, que c'est une église ou peut-être une secte en France, qui sait? On va répondre à cette question tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il nous intrigue, surtout depuis que l'on a appris l'ouverture d'un deuxième temple mormon en France, dans les Yvelines, il y a 2 semaines. Le premier a été créé il y a quelques années, c'était à Tahiti. On découvre cette église créée au 19e siècle aux États-Unis avec le sociologue Crystal Vanel. On se pose la question, l'église mormone, alors évidemment elle porte le nom d'église, mais c'est une religion, c'est une église ou c'est une secte? Alors, ou c'est pas si simple d'y répondre?
C'est pas si simple d'y répondre parce qu'en France, nous avons la laïcité, donc l'État ne reconnaît aucune église, aucune religion. C'est une religion, je dirais, en tant que sociologue. C'est une association cultuelle, 1905, depuis le début des années 2000. D'un point de vue sociologique, c'est une église qui est en tension avec la société. Et de par notamment tous les interdits, c'est une église en tension avec la société. Donc, d'un
point de vue... Contradiction ?
En contradiction peut-être aussi, notamment sur les valeurs sexuelles, sur, je pense au mariage homosexuel par exemple, qui est acté pour beaucoup de nos contemporains et en tout cas par la société aujourd'hui. Mm-hmm. Chez les Mormons, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Mm-hmm. Donc en ce sens-là, oui, c'est une église qui est conservatrice, qui est en tension avec la société. Et en ce sens-là, un sociologue pourrait dire que c'est une secte. Mais encore une fois, vous avez des Mormons qui sont tellement bien intégrés à la vie politique, à la vie des affaires, à la vie artistique. Je pense par exemple à Stephanie Meyer, qui est l'auteur de Twilight, qui est une mormone. Je pense à Gladys Knight, qui est une chanteuse de soul afro-américaine. Donc je pense à Harry Reid, qui est aussi qui était le représentant des démocrates au Sénat sous l'ère Obama. Donc en ce sens-là, on voit qu'il y a une tension, mais après, pris individuellement, les Mormons vivent plus ou moins leur religion en tension avec la société.
Et la question de l'argent, Crystal Vanel, est-ce que parce que quand on cherche à savoir si une organisation est sectaire ou pas, cette question elle est importante. Est-ce que quand on est membre de l'Église mormone, on donne une partie de son salaire, de son argent systématiquement à l'organisation, à l'église?
Alors, l'église mormone.
On appelle la dîme, je crois.
Oui, la dîme, exactement. Mmh. Alors, l'église mormone, effectivement, encourage le paiement de la dîme, donc 10% des revenus. C'est une obligation. Si les mormons veulent entrer dans le temple pour y faire les rituels nécessaires pour le salut.
Ah oui, donc ils n'encouragent pas, ils les obligent.
Effectivement, disons que si on veut avoir le salut en étant mormon, effectivement, il faut mieux payer sa dîme. Après, le contrôle sur la dîme n'est pas très sévère. C'est-à-dire que quelqu'un qui paye sa dîme, il faut juste qu'il en témoigne à un responsable ecclésiastique, mais il ne va pas y avoir d'enquête pour savoir, par exemple, avec ses fiches de paye. Donc, effectivement, il y a une dîme, mais après, le contrôle de cette dîme n'est pas extrêmement sévère.
Il y a un code strict, et vous avez commencé à nous l'énumérer, Crystal Vanel, qui s'applique aux Mormons, notamment sur ce qu'ils peuvent boire. Alors, vous nous l'avez dit, pas de café ni de thé. Pour quelle raison?
Alors, pas de café, pas de thé, pas d'alcool. Voilà. Et donc café, champagne, thé, parce que le champagne, c'est aussi de l'alcool.
Ah oui, ça c'est vrai. Mais le café et le thé.
Non, on sent l'invité qui aime bien le champagne. Moi j'aurais dit pas de vin rouge non plus.
J'ai pas été servi d'ailleurs.
Pas de vin rouge non plus.
Mais le café et le thé, c'est.
Il n'y a que de l'eau ici.
Oui, alors les Mormons vont expliquer ça en disant qu'effectivement c'est une règle religieuse, que ça a été révélé par Dieu. Moi en tant que sociologue, je contextualise les choses. Et ce que je remarque, c'est que quand ces interdits alimentaires ont été mis en place par les Mormons, c'était aux États-Unis au 19e siècle. Et à l'époque, il y avait tout un courant médical qui déconseillait de consommer les substances addictives, dont le thé et le café.
Parce que Jésus-Christ n'a pas vraiment croisé de café.
Champagne.
Je pense à son époque, ça n'avait pas été encore découvert. On en avait parlé dans les curiosités.
Oui, mais les Mormons, ils ont créé leur église beaucoup plus tard. C'est ce qu'on va raconter maintenant avec un dénommé Joseph Smith. On est en 1830, c'est ça, la date de création de l'église mormone. C'est quoi son histoire à lui? De quel milieu vient-il?
Alors, Joseph Smith vient d'un milieu de classe moyenne américaine, dans l'État de New York, des parents fermiers. Et Joseph Smith, comme beaucoup de personnes de son époque, était troublé par le pluralisme religieux. Parce que les États-Unis sont une terre de grande religiosité, notamment à cause du protestantisme. Et donc Joseph Smith, ce qu'il a voulu faire en fait, c'est qu'il a voulu rétablir l'église primitive de Jésus-Christ. C'était un peu son idée. Et encore une fois, il n'y a rien de très original là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas le seul Américain à avoir voulu faire ça à son époque.
Il a failli mourir dans sa jeunesse d'une maladie assez grave, c'était quoi?
Alors effectivement, il a eu la fièvre typhoïde, je crois qu'on dit ça comme ça, ce qui a entraîné une infection donc il a failli en mourir, ça a entraîné aussi une infection de sa jambe. Il a eu une opération assez lourde et donc du coup il a boité toute sa vie.
Et alors il base la création de cette église sur des visions, il dit qu'il a eu des visions. Lesquelles?
Alors effectivement, il affirme avoir eu des visions, mais ça c'est encore une fois très commun pour les fondateurs de nouvelles religions finalement.
Les prédicateurs disent à peu près tout ça, c'est ça?
À cette époque, oui. À cette époque, c'est une époque de grand réveil religieux. Et finalement, il y a des grandes réunions avec beaucoup d'effervescence, beaucoup d'émotions. Et il est très commun que des jeunes, que des femmes, que des hommes aient des visions. Et donc Joseph Smith affirme avoir une vision. Alors, il en a fait plusieurs récits de cette vision. Et selon les récits, Il y a quelques changements. Le récit qui a été canonisé par l'Église mormone, c'est celui de 1842. Et donc, il affirme que dans cette vision, il aurait vu Dieu le Père et Jésus-Christ. Donc là, on sort même de la Trinité chrétienne. Et que Dieu le Père et Jésus-Christ lui auraient commandé de rétablir la seule vraie Église.
Christal Vanel, d'où vient ce mot « mormon » et qu'est-ce qu'il veut dire aussi d'ailleurs?
Alors ce mot mormon, en fait, ça vient d'un livre, le livre de Mormon, que Joseph Smith a rajouté au canon chrétien. C'est-à-dire qu'il a rajouté ça à la Bible. Et donc, en fait, mormon, ça aurait été un Amérindien descendant d'une colonie israélite qui se serait établie en Amérique en 600 avant Jésus-Christ. Et en fait, ce qu'aurait fait Mormon, c'est qu'il aurait compilé plusieurs ouvrages écrits par ses descendants d'israélites. Et il aurait compilé en un seul livre, donc le livre de Mormon. Et ensuite, ce serait son fils Moroni qui serait apparu sous la forme d'un ange et qui aurait remis ce livre à Joseph Smith.
Alors Joseph Smith qui va finir.
Le fondateur de l'église qui finira lynché. On vous raconte d'ailleurs dans un instant comment sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France.
RTL. Les 11 600 tuyaux des orgues du tabernacle de Salt Lake City ne trouvent plus leur repos. La chorale de l'église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour se produit ici tous les dimanches. 350 choristes, 350 mormons qui jubilent.
La curiosité est un vilain défaut.
3 habitants sur 4 sont des mormons, les banques, les universités, le gouverneur, et l'on y apprend que Joseph Smith, qui écrivit au 19e siècle le livre des mormons, la deuxième bible de ses fidèles, adorait les femmes, et qu'il en eut plus de 20.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais on la connaît sous le nom d'église mormone. 15 millions, presque 16 millions d'adeptes dans le monde et une capitale, Salt Lake City. Pour la découvrir, le sociologue et spécialiste des mormons, Christal Vanel. Depuis quand sont-ils installés dans ces montagnes rocheuses?
Depuis 1847, puisque avant les mormons donc, s'étaient établis dans l'état de New York. Ils avaient essayé de construire la Nouvelle Jérusalem, Sion, dans le Missouri, dans l'Ohio, dans l'Illinois. Les rapports avec le voisinage s'étaient un peu mal passés. Joseph Smith a fini assassiné dans une prison.
On va le raconter en détail dans un instant.
Après sa mort, il y a eu une crise de succession. Alors ça encore, c'est un classique dans l'histoire des religions. C'est-à-dire que le fondateur meurt et paf, il y a une crise de succession. Et là, la majorité des mormons ont suivi Brigham Young et ont fait une traversée des États-Unis jusque dans les montagnes rocheuses où ils sont arrivés en juillet 1847.
Il n'y avait rien quand ils sont arrivés.
Il n'y avait pas grand-chose. Alors, il y a quand même des Indiens dans l'Utah, les Utes. Il y avait des explorateurs qui, avant, avaient exploré l'Utah, mais jamais de colonies qui s'étaient véritablement installées. Donc, les Mormons, là, pour le coup, ont vraiment transformé un désert en un État.
Salt Lake City, c'est combien d'habitants
Alors, Salt Lake City, c'est à peu près 200 000 habitants pour ce qui est la ville même. Après, aux États-Unis, c'est très dur de comptabiliser les habitants parce que si on prend la banlieue, ça serait 1 million d'habitants.
Avec vraiment 3 habitants sur 4, comme j'ai entendu dans la mise en onde d'André Facetta, qui sont mormons.
Dans l'Utah, c'est 60% de mormons dans l'Utah. Ça, c'est vrai, d'accord, très bon chiffre. D'accord. Après, pour ce qui est à Salt Lake City, moins de 50% des habitants de Salt Lake City sont mormons et selon certains statistiques, même 40%. Ouais. Mais donc, ça veut dire la majorité des habitants de Salt Lake City ne sont pas mormons aujourd'hui.
Ouais. Et est-ce que le maire de la ville est mormon ? Est-ce qu'il faut forcément être mormon depuis des générations pour présider cette ville ?
Eh ben non, le maire de Salt Lake City, aujourd'hui, c'est une femme d'origine catholique et homosexuelle et démocrate.
Ah bah oui, c'est anti-mormon, ça. C'est le vote en réaction, on va appeler ça comme ça.
Aux États-Unis, on compte donc, vous nous le disiez tout à l'heure, plus de 6 millions de mormons. Qui sont les plus célèbres d'entre eux ?
Alors, il y en a beaucoup. J'avais cité tout à l'heure Gladys Knight. J'avais cité Harry Reid. Ouais. Donc, Gladys Knight, chanteuse de soul. Harry Reid, qui était représentant des démocrates au Sénat sous
Stéphanie Obama. Meyer, elle est anglaise ou américaine ?
Stéphanie Meyer, je crois qu'elle est américaine. Américaine, Stéphanie Meyer, c'est donc l'auteur de Twilight.
Mais est-ce qu'il y a une espèce d'ambassadeur, je ne sais pas, un peu comme Tom Cruise peut l'être pour la scientologie, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, pas à ce point-là. Bon, aujourd'hui, il y a Mitt Romney. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le meilleur ambassadeur pour une église qui veut s'exporter notamment dans une Europe de l'Ouest plutôt progressiste. Après, alors, à une époque, il y a eu la famille Marriott. Vous savez, les hôtels Marriott, les fondateurs sont mormons.
Et puis, ils ont changé de religion ?
Non, ils sont toujours mormons, les Marriott.
Ah, d'accord. Pardon, il y a une époque.
Oui, donc, il y a quand même quelques... Et on voit qu'il y a une intégration au tissu économique qui est très claire. Je voudrais qu'on revienne à l'histoire du fondateur, Joseph Smith, parce que vous nous avez dit il est mort en prison. En fait, sa conception de l'Église dérangeait tellement qu'il était souvent pourchassé, chassé des villes où il s'installait.
Ce qui dérangeait chez Joseph Smith, dans une Amérique démocratique, pluraliste, protestante, c'est sa volonté d'établir une théocratie en fait sur Terre. C'était ça l'idée de Joseph Smith. Joseph Smith
voulait vraiment établir. Il s'est même présenté à la présidentielle, c'est ça ?
Il s'est présenté à la présidentielle. Et puis à Nauvoo, donc la ville que les Mormons ont fondée dans l'Illinois, Joseph Smith avait tous les pouvoirs pratiquement.
Mais c'est quoi une théocratie, vous nous rappelez ?
Une théocratie, c'est le mélange des pouvoirs temporels et spirituels en fait. C'est-à-dire une théocratie, c'est Dieu qui gouverne. En tout cas, c'est la religion qui gouverne. Et donc avec Joseph Smith, à Nauvoo, c'est un peu ce qui s'est passé, puisque Joseph Smith était maire de la ville, il était aussi commandant de la Légion de Mormons qui défendait la ville. Et puis Joseph Smith avait aussi, à Nauvoo, il avait aussi mis en place des pratiques qui éloignaient le mormonisme radicalement du christianisme. Et il y a un journal d'opposition qui s'était créé, notamment à Nauvoo, qui avait été créé par d'anciens mormons et ou des mormons dissidents. Et Joseph Smith, en fait, a fait fermer le journal. Et donc là, ça n'a pas du tout plu à la population locale, qui a, je pense que ça vous plaît pas du tout aussi en tant que journaliste, mais qui a vu une atteinte à la liberté de la presse.
Et donc, du coup, Joseph Smith a été arrêté.
Il a été mis en prison en attente du procès. Et là, il a été lynché par une foule.
D'accord, donc ça c'est la fin du fondateur de l'église mormone. Avant d'être lynché, il avait pris, alors je ne sais pas si c'est un virage qu'il faut dire, mais en tout cas il s'était rapproché des francs-maçons. Ça veut dire qu'il y a une dimension, cette dimension-là, elle était importante ou elle est encore importante dans l'église mormone ?
Alors effectivement, Joseph Smith a été initié à la franc-maçonnerie. Et cette dimension est importante dans l'histoire du mormonisme, en ce sens que, selon certains récits, des rituels du temple sont inspirés de la franc-maçonnerie. Donc en ce sens-là, oui, la franc-maçonnerie a eu un impact sur le mormonisme.
D'accord, il y a quand même ce lien qu'on peut établir. Alors on va continuer de découvrir ce que sont les mormons aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en France, notamment la question de la place des femmes dans cette église. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, 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 what's left of his world. The world he left behind. Not so long.
Sur RTL, on découvre un monde qui nous intrigue, celui des Mormons, comme Gladys Knight, que vous venez d'entendre, cette chanteuse mormone, une star aux États-Unis et dans le monde, une église fondée en 1830 par un certain Joseph Smith et qui revendique aujourd'hui plus de 15 millions de membres dans le monde. On est avec vous, Christal Vanel, vous êtes sociologue et vous vous passionnez pour cette église. On parlait de cette ville, Salt Lake City, qui a été créée par les Mormons, vous nous rappelez à peu près en quelle année ?
1847, ils arrivent dans la vallée du lac Salé en 1847.
Et alors, on va souvent aujourd'hui dans cette église mormone de Salt Lake City quand on est passionné de généalogie. Pour quelle raison ?
Alors, pour la raison que les Mormons baptisent les morts. C'est-à-dire que les Mormons baptisent les vivants, mais aussi les morts. C'est-à-dire qu'ils jugent que tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de leur vivant d'être baptisés Mormons, eh bien, on peut les baptiser quand ils sont morts. Et donc, c'est pour ça que les Mormons font des recherches généalogiques. Ils ont microfilmé les registres, les registres d'état civil notamment. Aujourd'hui,
pas alors, seulement aux États-Unis, hein,
aussi en France. Ouais, ils les numérisent avec l'accord de l'État français, de la CNIL notamment. Une fois qu'ils ont ces registres, ils les stockent dans leur bibliothèque au fond des montagnes rocheuses.
Oui, alors ça, c'est connu des passionnés de généalogie en France parce que le site, alors je sais pas quel est le nom du site.
Family Search.
Family Search, voilà, c'est vraiment une mine d'informations pour ceux qui cherchent à remonter dans leur histoire familiale. Mais ça veut dire que si on veut, en tant que Français, faire en sorte qu'un de ses aïeuls soit. Soit. Baptisé selon le rite mormon, on peut faire la demande auprès de l'église à Salt Lake City, c'est ça, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez ?
Alors, j'imagine que vous pouvez faire la demande. Après, il est rare, quand quelqu'un n'est pas mormon, il est rare qu'il demande à ce que ses ancêtres le soient. Donc souvent, ce sont les mormons eux-mêmes qui vont dans le temple se faire baptiser pour leurs ancêtres à eux.
Vous nous parliez des règles, Christal Vanel, et c'est ça évidemment qui nous fascine parce qu'on ne connaît pas tout à fait bien les codes de cette religion, de cette église, des règles notamment autour de la polygamie. Aujourd'hui, la polygamie, les mormons ne sont plus polygames.
Plus du tout, les mormons ne sont plus polygames. Il y a des schismatiques, c'est-à-dire des mormons fondamentalistes qui ont quitté l'institution, qui ont quitté l'église, mais ils sont totalement rejetés par l'église et le rejet est réciproque. C'est-à-dire que pour les mormons fondamentalistes, l'église mormone a apostasié en abandonnant la polygamie, et pour les mormons mainstream, on va dire, ce sont les fondamentalistes qui ont apostasié en s'adonnant à la polygamie.
Mais les plus importants, quand on parle de 16 millions, c'est...
Ce sont les mormons monogames.
Voilà, d'accord, et qui sont, on va dire, intégrés à la société. Ça veut dire qu'ils s'habillent comme vous et moi, c'est pas comme les Amish, on a en tête les Amish qui sont habillés comme au 19e siècle, c'est pas du tout ça.
Ah, pas du tout, les mormons, enfin, vous pouvez croiser un mormon dans une rue de Paris et il serait impossible de savoir qu'il est mormon. Et c'est aussi pareil pour beaucoup de fondamentalistes mormons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fondamentalistes mormons, notamment ceux qui vivent à Salt Lake City, qui sont parfaitement intégrés à la vie contemporaine, à la vie moderne.
Alors 16 millions de pratiquants dans le monde de mormons, c'est peu finalement au regard de nombreuses autres religions. Est-ce qu'il y a des missionnaires, des gens qui font du prosélytisme pour attirer de nouveaux mormons ?
Alors l'église mormone est une église extrêmement prosélyte. Donc autant le temple sera fermé au public une fois qu'il sera consacré.
Là vous parlez du temple qui
du
vient
temple
d'ouvrir
du Chénet, voilà,
Chénet, exactement. Dans les Yvelines.
Autant les chapelles mormones, donc il me semble qu'il y en a deux à Paris, une qui est dans le Marais et une qui est dans le 19e. Autant les chapelles mormones ont des portes qui sont grandes ouvertes au public parce que le but est de convertir le plus de personnes possible. Et l'église mormone a aujourd'hui 70 000 missionnaires dans le monde.
C'est des gens qui font du porte-à-porte ?
Par exemple, oui, alors ils font du porte-à-porte, où ils accostent les gens dans la rue. Ils sont 70 000, pour grande majorité de jeunes garçons, entre 18 et 20 ans, qui donnent 2 ans de leur vie pour faire une mission pour l'église mormone.
Ils sont payés ?
Ils ne sont pas payés, et même souvent, ce sont eux qui payent pour financer leur mission, ou leur famille qui paye pour financer la mission.
Mais d'ailleurs, je crois que Mitt Romney avait fait ça dans sa jeunesse en France.
Ouais,
il avait été missionnaire, c'est ça ?
Voilà, exactement, de 66 à 68. Et puis, il est revenu aux États-Unis, il était républicain.
Quelle est la place des femmes chez les mormons ?
La
polygamie a été abandonnée, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, ou en tout cas, on essaye d'y parvenir ?
Égalité, c'est une religion qui reste comme beaucoup de religions, comme le catholicisme par exemple, une religion quand même assez patriarcale, où il y a quand même une domination masculine, c'est-à-dire que seuls les hommes ont la prêtrise à partir de 12 ans, les femmes, elles, n'ont pas la prêtrise. Alors c'est vrai que les femmes ont des responsabilités dans l'église mormone, mais ces responsabilités se font toujours sous l'autorité, elles sont nommées à des postes de responsabilité par une hiérarchie masculine. Après, moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est comment les femmes mormones se jouent de ça. Et comment est-ce que, bah, dans la vie civile, elles vont arriver à avoir une carrière, que ce soit en politique, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le monde du spectacle, comme Gladys Knight. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment est-ce que les femmes se jouent de cette domination masculine. Bah, comment elles font? Elles font des études. Ça, les études, c'est quelque chose qui est très encouragé par l'Église mormone. Donc souvent, les femmes vont faire des études et puis elles vont avoir des carrières.
On va imaginer un rite dans ce temple. Par exemple, le baptême. Comment on baptise dans l'Église mormone?
Alors, c'est difficile à dire parce que la plupart des comptes rendus qu'on a des rites de l'Église mormone dans le temple, ce sont des comptes rendus de personnes qui ont quitté l'Église mormone. Donc forcément, quand vous quittez une religion après avoir tant donné, après avoir payé une dîme, après avoir servi une mission, après avoir donné du temps, de l'argent, forcément, vous quittez un peu fâché. Donc, ces comptes rendus sont toujours à prendre avec précaution pour le sociologue. Cependant, quand j'y suis allé, quand je l'ai visité, on a eu quand même pas mal d'explications. Et ce qui se passe, c'est que les baptêmes pour les morts sont souvent pratiqués, pas toujours, mais souvent pratiqués par des jeunes mormons, hommes ou femmes, à partir de 12 ans, qui se rendent dans le temple. Et là, il y a un fond baptismal, puisque le baptême se fait par immersion dans l'Église mormone. Et là, en fait, le mormon va être baptisé en lieu et place d'une personne décédée.
D'accord. Et pour un jeune qui naît dans une famille mormone et qui est baptisé, à quel âge il est baptisé? Est-ce que c'est juste après la naissance, comme pour les catholiques, ou est-ce que c'est plus tard?
C'est à partir de 8 ans, le baptême.
Et donc, c'est une immersion totale, c'est ça? On est
immersion
plongé
totale,
complètement dans l'eau.
Immersion totale, comme aussi beaucoup d'églises protestantes de style baptiste ou évangélique.
Merci beaucoup, Chris Alvanel. Vous avez répondu à énormément de questions et notre curiosité qui était titillée.
Elle est bien rassasiée.
Voilà, elle est bien rassasiée. Merci
à très bientôt,
beaucoup.
Micro d'agilité.
Vous êtes sociologue et spécialiste des Mormons.
Tout de suite, on part travailler dans le désert. L'aventure continue sur RTL.
Vous écoutez RTL.